Bonjour Jonathan et bonjour à tous nos auditeurs. Je vais donc m'entretenir aujourd'hui avec Catherine Zuereb, présidente de Toulouse INP, autrement dit de l'Institut National Polytechnique de Toulouse. Bonjour madame et merci d'avoir bien voulu vous exprimer sur Radio Présence et répondre à mes questions, parce qu'une information de première importance concernant l'Institut que vous présidez a été rendue publique en fin de semaine dernière. Le groupe des écoles centrales et l'Institut national polytechnique de Toulouse ont annoncé leur volonté d'étudier la création d'une école centrale à Toulouse. On sait qu'il existe des écoles centrales à Paris, à Lyon, à Nantes, à Lille et à Marseille, mais aucune à ce jour dans le grand quart sud-ouest du pays. Pas d'école centrale à Bordeaux, pas d'école centrale à Toulouse ou à Montpellier. C'est dire si l'annonce de cette réflexion commune lancée pour la création de ce qui s'appellerait Centrale Toulouse Institut est une très bonne nouvelle pour la ville rose, mais aussi pour la région Occitanie. Précisons tout de même qu'il s'agit d'un projet. Il reste encore beaucoup de points à éclaircir. Nous allons y revenir avec vous, Catherine Zuereb. Dans un premier temps, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément Toulouse INP, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est cet institut qui en fait regroupe et fédère plusieurs établissements ?
Bonjour, oui, effectivement, Toulouse INP est un établissement qui est connu des Toulousains, mais sans forcément que l'on sache y mettre derrière l'ensemble de ses missions. Donc c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche qui a un statut de type universitaire et qui regroupe trois écoles internes, bien connues également des Toulousains, l'ENSET, qui est une école de centre-ville qui travaille à la fois sur les sciences de l'environnement, la mécanique des fluides, l'énergie, la science du numérique, l'électronique. Nous avons également une deuxième école qui est à cheval sur le site de Toulouse et le site de Labège et qui s'appelle l'ENSI-A7, l'école d'ingénieurs en archimique et technologique, et qui adresse tous les problèmes de transformation de la matière et de l'énergie, donc tournés autour de la chimie, des matériaux, des procédés, du génie industriel. Et nous regroupons également l'ENSAT, qui est l'école d'agronomie de Toulouse, présente à Auzeville. Ça, ce sont nos écoles internes. Et puis, nous avons également des écoles qui sont associées à l'Institut par des partenariats, des conventions de partenariat, parce que nous partageons certains objectifs et certains outils communs. Il s'agit de l'école d'ingénieurs de Purpan, de l'école nationale de météorologie, qui est installée là aussi à Toulouse, Basso-Cambeau est bien connue, et d'une école d'ingénieurs qui est l'ENI de Tarbes. Donc un établissement avec environ 6500 étudiants et une forte connotation recherche, puisque nous avons un grand nombre de laboratoires et tous associés au CNRS ou à l'INRAE sur des thèmes de recherche qui sont très pointus et largement reconnus de façon internationale.
Donc ça veut dire aussi que c'est un enseignement très spécialisé dans certaines filières.
Actuellement, oui, nous avons des écoles qui sont constituées de départements, donc ce sont des écoles d'ingénieurs, qui forment essentiellement des ingénieurs. Nous formons aussi des docteurs et puis des cadres pour l'industrie au travers de masters. Mais c'est la formation d'ingénieurs qui est le cœur de notre formation. Et cette formation d'ingénieurs, elle passe par des diplômes aujourd'hui, qui sont des diplômes essentiellement de spécialité, effectivement, puisqu'une même école peut délivrer entre 1 et 5 diplômes d'ingénieurs dans des filières différentes.
Alors on en vient donc à ce projet de rapprochement avec le groupe des écoles centrales. Quel est l'intérêt d'entrer dans ce groupe pour votre institut ? On voit bien l'aspect valorisant, hein, compte tenu du prestige de l'école centrale. Je suppose qu'il y a aussi, et avant tout, un saut qualitatif dans l'enseignement et les formations proposées.
Alors effectivement, vous l'avez dit, le label est une évidence de capacité à se faire reconnaître, que ce soit en région ou au-delà. Mais également, le modèle que portent les écoles centrales est un modèle qui, j'en suis convaincue aujourd'hui, répond à de nombreuses aspirations et nous permettrait de mener dans cet établissement les réformes qui sont nécessaires pour que l'on puisse être au rendez-vous à la fois des nouvelles aspirations des étudiants, parce que nous avons des générations aujourd'hui d'étudiants qui ont beaucoup évolué depuis ces dernières années. Donc nous avons des étudiants qui sont ouverts sur un monde extrêmement divers, et même s'il en reste qui arrivent chez nous avec des vocations précoces qui relèvent d'une discipline, pour la plupart d'entre eux, ils sont friands qu'on leur apporte au cours de leur scolarité en école d'ingénieur une ouverture disciplinaire et une capacité à découvrir des mondes précis des sciences et des technologies qu'ils n'ont pas pu expérimenter jusque-là. Donc c'est une première chose. Et le modèle des écoles centrales, qui est extrêmement pluridisciplinaire, permet d'accéder à ce modèle. Nous avons d'autre part, je crois, des attentes des entreprises hein, qui ont là aussi beaucoup évolué ces dernières années. On sait qu'une carrière en entreprise, elle n'est plus aussi linéaire qu'elle se faisait il y a quelques années. Et les entreprises souhaitent que leurs ingénieurs puissent s'intéresser au gré des projets qu'ils développent à des sujets qui vont faire appel à des compétences et à des savoir-faire qui, même s'ils sont à la base soclés sur une très forte compétence disciplinaire, reste très ouvert et très souple et adaptatif dans un environnement complexe et dynamique. Donc c'est un deuxième objectif, j'allais dire, une deuxième motivation. La troisième, elle est vraiment par rapport à nos concitoyens aujourd'hui et au rôle qu'un établissement public comme le nôtre se doit d'endosser. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui à adresser des problématiques sociétales qui, lorsqu'on les prend en considération, font appel à des besoins pluridisciplinaires. Si on souhaite aujourd'hui aborder l'agriculture avec des aspects de numérisation qui peuvent concerner l'observation par satellite pour guider des tracteurs ou la surveillance à distance de troupeaux ou autres, nous sommes obligés de combiner des compétences, des formations, des cultures de cadres qui travailleront dans ces secteurs-là. Et on peut décliner cela sur l'environnement, on peut décliner cela sur des usines du futur, sur des énergies vertes. Demain, on travaillera sur l'hydrogène et dans l'établissement, on a un très fort projet sur l'hydrogène aujourd'hui. Et on voit bien que pour instruire ces questions-là et se pencher sur ces questions-là, l'hydrogène vert notamment, nous sommes obligés aujourd'hui de mettre 4-5 laboratoires complémentaires sur ces mêmes tâches. Sur la formation, c'est la même chose. Et le fait de passer de formations qui sont encore assez silotées, donc du fait de ce caractère disciplinaire, à des formations qui sont beaucoup plus transversales, permettra certainement de former au mieux des ingénieurs qui seront capables d'appréhender toutes ces problématiques.
Oui, il y a donc en fait aujourd'hui une nécessité d'adaptation d'une certaine manière à la demande des entreprises, à la demande du marché, j'ose le mot, et puis d'avoir des profils d'étudiants capables de changer plusieurs fois de métier au cours d'une carrière. Est-ce qu'il y a aussi un aspect financier au fait de rentrer dans le groupe des écoles centrales au sens où ça pourrait vous permettre de développer encore plus vos partenariats avec les labos de recherche ?
Alors, je crois que l'aspect financier il n'est pas direct, hein, bien sûr, puisque que ce soit le groupe des écoles centrales ou les instituts nationaux polytechniques, nous sommes tous des établissements qui sont rattachés au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Industrie, donc avec les mêmes modèles de financement, les mêmes statuts des personnels. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence fondamentale. Par contre, comme vous le soulignez effectivement avec justesse, il est à attendre qu'avec un label plus visible et avec un réseau aussi des écoles centrales qui aujourd'hui est très solide au niveau des alumni, au niveau des entreprises partenaires, nous ayons ainsi la possibilité de mettre en valeur toutes les capacités offertes par nos laboratoires pour répondre à des questions légitimes d'innovation, d'amélioration des technologies et d'acceptation des nouvelles technologies dans les entreprises, de telle façon que les partenariats avec les entreprises pourront, se démultiplier. Par exemple, via des chaires, nous souhaitons bien que par des outils comme la capacité offerte aux entreprises avec des aménagements fiscaux, de mettre en place des chaires de recherche, des chaires formation recherche avec nos laboratoires, permettra d'augmenter notre caractère partenarial et donc que nous valorisions ce que nous savons faire au profit des entreprises et de la société.
Une autre question, est-ce que ça veut dire aussi que les critères d'entrée au futur Centrale Toulouse Institut vont être plus sélectifs, ce qui va aussi impliquer un niveau supérieur dans le recrutement des étudiants ?
Alors vous savez, le recrutement des étudiants, il est fait sur le principe de l'offre et de la demande d'abord. Donc mécaniquement, nous ouvrons un certain nombre de places dans nos écoles. Et en fonction de l'attractivité d'un établissement, ce sont les élèves, les étudiants qui sont les mieux placés, qui peuvent prétendre à ces places. Voilà, donc j'allais dire, ça va dépendre essentiellement de la façon dont nous nous positionnerons dans le futur concours des écoles centrales et ce que nous proposerons dans nos cursus qui fera notre attractivité et qui fera qu'il sera plus ou moins facile d'intégrer nos bancs. Après, je voudrais en profiter aussi pour dire que dans une école, il est important qu'il y ait bien sûr de l'excellence, Il est important aussi qu'il y ait de la diversité et nous serons attentifs à aller chercher des publics qui aujourd'hui accèdent plus ou moins facilement à ces études-là parce qu'il y a de l'autocensure beaucoup qui s'exerce. Et je crois qu'avec ce projet-là, nous pourrons aussi développer une réflexion sur notre capacité d'attirer des publics par une meilleure visibilité également.
Alors, cette réflexion commune est donc lancée pour que ce projet puisse aboutir. Quel domaine ça va concerner, cette réflexion ? Parce qu'il y a certainement des aspects juridiques, bien sûr, mais des aspects très pratiques, comme le contenu de l'enseignement, les matières enseignées, peut-être aussi le statut des enseignants.
Alors, le statut des enseignants ne changera pas, comme je vous le disais, ni des enseignants, ni de nos personnels techniques et administratifs. Ce sont des personnels de la fonction publique qui dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, il n'y a pas de changement de statut à attendre de ce point de vue-là. Ensuite, il faudra travailler, bien sûr, et c'est l'intérêt du projet premier, c'est de repenser nos cursus de formation. Donc, ça, c'est un travail essentiel dont il faudra s'emparer. Une fois que l'établissement aura confirmé sa volonté d'aller dans cette direction, donc après l'été 2022, nous devrons nous mettre en ordre de marche pour repenser ces cursus qui permettent d'aller au plus près de ce que chaque élève ingénieur qui rentrera chez nous souhaitera faire. C'est vraiment dans l'esprit d'un parcours à la carte que ces nouvelles façons de former présente le plus grand intérêt. Et ça, évidemment, vous imaginez que ça demande que l'on renverse complètement notre façon d'aborder les choses, tout en continuant à s'appuyer sur les compétences qui sont les nôtres, qui sont celles de nos enseignants-chercheurs, qui vont continuer à enseigner dans leur discipline, qui vont continuer à enseigner dans les domaines qui sont ceux des recherches qu'ils mènent dans leur laboratoire. Voilà, ça c'est ce qui fait notre richesse, notre ADN. Ça, on ne le changera pas. Par contre, on va trouver une nouvelle combinatoire dans les cursus, une nouvelle façon de travailler transversalement avec des collègues qui aujourd'hui sont dans des écoles ou des départements d'école même qui se connaissent peu, se pratiquent peu, mais qui demain auront à penser des modules qui seront proposés à nos futurs étudiants qui permettront justement d'adresser, de prendre tout ce caractère pluridisciplinaire à bras le corps.
On va terminer, là, il nous reste peu de temps. L'échéance, ce serait une première promotion à quel horizon ?
Écoutez, si nous travaillons proprement, sans prendre de retard, au mieux, nous accueillerons nos premiers élèves ingénieurs en septembre 2025 et nous créerons l'établissement l'année 2024. Voilà, s'il nous faut un peu plus de temps pour bien travailler nos copies et avoir une offre de formation extrêmement attractive, eh bien nous prendrons un tout petit peu plus de temps. Voilà, on ne brusquera personne et on fera les choses de façon à ce qu'elles soient d'une extrême qualité au profit de nos étudiants et de nos entreprises et de notre écosystème local.
Voilà. Eh bien, quoi qu'il en soit, tout ça me semble de très bon augure. Merci beaucoup, Catherine Zuereb, de nous avoir donné toutes ces explications sur le rapprochement en cours entre le groupe des écoles centrales et Toulouse INP, un projet très important pour l'enseignement supérieur, mais aussi, comme vous le rappeliez, pour nos entreprises à Toulouse et dans toute notre région. Nous allons bien sûr suivre les prochaines étapes de la création de Centrale Toulouse Institut. J'espère que vous pourrez bientôt revenir nous en parler à Radio Présence. Et maintenant, la suite de cette matinale avec Jonathan Botello.